préserver les écosystèmes et la biodiversité, protéger et promouvoir la faune et la flore, ainsi sont les différentes missions de Mayenne Nature Environnement. L'association étudie et favorise les connaissances des sites et milieux naturels du département de la Mayenne, à travers des expositions, conférences, débats, stages de formation et supports pédagogiques et scientifiques. Elle développe une éducation à l'environnement qui a pour but d'encourager une attitude éco-citoyenne. C'est en ayant la connaissance que l'on peut protéger au mieux la nature, et cela commence par préserver la qualité de vie et d'environnement en milieu rural comme urbain, par la gestion des déchets, la protection du patrimoine naturel. Mayenne Nature Environnement cherche avant tout à préserver ces bijoux de la nature dont on n'a parfois pas conscience d'abîmer petit à petit.
Alors, le castor d'Europe fait aujourd'hui partie des espèces qui reviennent progressivement sur nos cours d'eau et avec lui se posent des questions très concrètes. Comment vit-il? Quel rôle joue-t-il dans nos écosystèmes? Et comment cohabiter durablement avec lui? C'est tout l'objectif de la soirée ciné-conférence proposée par Mayenne Nature Environnement autour du documentaire Le cas du castor qui sera suivi d'un échange avec Rémi Luglia. On en reparlera, ça aura lieu ce vendredi 21 novembre à 18h30 à l'avant-scène à Laval. Alors, pour mieux comprendre les enjeux écologiques et locaux liés à cette espèce, j'accueille aujourd'hui Magali Perrin, chargée de mission faune à Mayenne Nature Environnement. Bonjour Magali, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors Magali, je le disais, vous êtes chargée de mission faune à Mayenne Nature Environnement. Est-ce qu'on peut rappeler les principales missions de l'association sur notre territoire ?
Alors Mayenne Nature Environnement, c'est une association naturaliste qui a été fondée en 1982 et qui interagit sur le département de la Mayenne pour la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore par le biais d'inventaires pour améliorer les connaissances sur les espèces qui se trouvent sur notre département et accompagner au mieux l'aménagement du territoire pour une meilleure prise en compte de la biodiversité notamment.
Dans l'ensemble des espèces et milieux que vous suivez, où se situe le castor d'Europe et pourquoi est-ce qu'il nous intéresse particulièrement aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il intéresse particulièrement l'association?
Alors, le castor d'Europe fait partie des espèces qui sont protégées aujourd'hui sur notre département. C'est le plus gros rongeur européen qu'on ait et il a disparu du département de la Mayenne par la pression humaine. Il revient petit à petit sur les cours d'eau suite à une réintroduction et on le retrouve essentiellement aujourd'hui sur la Mayenne, certains de ses affluents et sur le bassin de Loudon.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer ici en Mayenne donc une soirée ciné-conférence spécifiquement autour du castor? On a donc la projection d'un film et puis ensuite un temps d'échange.
Alors effectivement, sur le département de la Mayenne, le castor est revenu assez récemment. Mmh. Et pour le coup, avec lui se pose tout un tas de questions sur la cohabitation qu'il peut y avoir entre l'homme et le castor qui vont fréquenter les cours d'eau ou en tout cas aux abords des cours d'eau. L'idée de ce ciné-conférence, c'est de pouvoir amorcer les échanges, essayer de préciser un petit peu l'écologie du castor, retirer les fausses idées qu'on pourrait avoir sur cette espèce et puis essayer de répondre au mieux en fait, aux questions de chacun pour justement plus que ce soit une crainte. Le castor aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir des échanges sur la cohabitation puisqu'il va utiliser les cours d'eau. On dit que c'est un animal qui est bâtisseur. Donc il n'est pas très très discret dans son milieu, il laisse des indices de présence, effectivement il coupe des arbres et puis localement en fonction des conditions de milieu et puis de la disponibilité en ressources, il peut être amené à créer des barrages sur les cours d'eau et pour le coup c'est sur ces zones de barrages qu'il faut échanger pour éviter qu'il y ait des conflits qui conduisent à la destruction de l'espèce, espèce qui est entièrement protégée à la fois sur le territoire national et international aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques peut-être les plus marquantes de cet animal pour apprendre un peu à le découvrir ensemble, son organisation familiale, son mode de vie, ses déplacements?
Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est le plus gros rongeur d'Europe. C'est un mammifère semi-aquatique qui hiberne pas, donc qui passe toute sa vie au contact avec l'eau. En termes de mensuration, on va être sur des animaux qui font en moyenne 20 kilos pour une longueur d'environ 1,20 m. Avec la queue comprise. Le principal signe distinctif du castor, ça va être justement cette queue plate qui se trouve très puissante avec un muscle très important entre la base de son dos et puis sa queue. Une queue plate qui lui sert de gouvernail et qui est recouverte d'un cuir marqué d'écailles. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, il a été considéré par l'Église comme un poisson qu'il était possible de consommer en période maigre, ce qui ne l'a pas avantagé dans la régression qu'on a pu observer. Il vit en moyenne entre 10 et 15 ans en milieu naturel. Il se reproduit une fois par an. Donc l'accouplement a lieu à la fin de l'hiver et il donnera naissance entre les mois de mai et juin à un nombre de petits entre 1 et 4, assez rarement 4. Il vit en clan familial, donc ce qui est assez important, c'est de dire que le castor, il est fidèle dans son couple. Donc un couple de castors va être à vie et du coup, le clan familial va être constitué des deux parents, des deux enfants de l'année la plupart du temps et puis des deux petits de l'année précédente. Sachant que le petit du castor, on l'appelle le castorin.
Ah oui, on parle souvent du castor, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, comme d'un grand bâtisseur, j'allais dire d'un grand architecte. En quoi ces constructions transforment le milieu? Effectivement, on disait tout à l'heure qu'il laissait des traces. À quel point est-ce qu'il peut transformer un cours d'eau, par exemple, par chez nous?
Alors morphologiquement, le castor, il est assez peu adapté à la marche terrestre. Il se déplace principalement par le milieu aquatique, donc par le cours d'eau. Et en période de basse eau, il peut avoir des difficultés à accéder à sa nourriture, ce qui va le forcer à créer des barrages pour retenir un niveau d'eau suffisant qui lui permettra d'accéder justement à ses ressources en nourriture. Et puis, il va avoir un terrier-hutte qui va être positionné sur la berge. Et ce terrier-hutte est accessible par l'eau la plupart du temps. Donc, il faut qu'il maintienne un certain niveau d'eau. Là où on dit qu'il est bâtisseur, c'est qu'il est en capacité de créer un barrage qui soit relativement imperméable pour lui permettre de continuer à vaquer à ses occupations sur ce territoire, mais qui sera aussi suffisamment temporaire pour qu'en grosse période de crue, l'eau qui circule dans le cours d'eau puisse véhiculer la faune, véhiculer les sédiments, tels qu'on peut concevoir un cours d'eau qui fonctionne bien. Donc il va recréer des zones humides à certaines périodes de l'année, et puis il va favoriser l'installation d'une biodiversité plus importante.
On le disait tout à l'heure, le castor a quasiment disparu de France à un moment avant de faire son retour. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ses grandes étapes? Et on a dit, on a évoqué un peu aussi également pour quelles raisons est-ce qu'il était particulièrement chassé. On a parlé de sa queue, mais pas seulement.
Alors pas seulement, effectivement, tout à l'heure on l'a dit, le castor il a été chassé pour sa viande puisqu'il était consommable et consommé même au titre de poisson en période plus creuse puisque sa consommation était autorisée par l'Église. Il a été chassé pour sa fourrure, c'est un animal semi-aquatique qui n'hiberne pas, donc il a une fourrure parfaitement adaptée pour subsister en milieu aquatique même quand les températures baissent, et à ce titre-là elle était relativement prisée. Et puis il a été chassé aussi puisqu'il sécrète par une glande à l'arrière de son corps, il sécrète un produit qui s'appelle le castoreum et qui était utilisé en parfumerie et en pharmacopée. Donc pour le coup, pour ces trois raisons, la viande, la fourrure et le castoreum, les castors ont été pourchassés jusqu'à une quasi-extinction au début du XXe siècle. Ne persistait plus qu'un bastion au niveau de la vallée du Rhône, qui a été considéré suffisamment important pour qu'il puisse y avoir des prélèvements en vue d'une réintroduction. Et le retour du castor aujourd'hui en Mayenne, il est bien issu d'une réintroduction qu'il y a eu sur la vallée de la Loire autour des années 60, entre 74 et 76.
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de sa présence en France et puis plus précisément du coup chez nous en Mayenne?
Donc il revient spontanément. Initialement, il était vraiment partout en France, en Europe, mais aussi en Asie. Il est passé vraiment au bord de l'extinction sur beaucoup de zonages. Et en France, il revient tout doucement avec encore quelques petits point de vigilance à avoir puisque c'est une espèce qui est sensible à la fragmentation de son territoire, particulièrement impactée par les collisions routières puisqu'on a des trafics qui augmentent. On a aussi un réseau routier qui est de plus en plus développé. Donc dans tous les secteurs où les routes passent aux abords des cours d'eau, voire au-dessus des cours d'eau, on a un risque potentiel de collision. En Mayenne, on n'en est pas encore à en tout cas, on n'y est pas trop confronté puisqu'on a une collision aujourd'hui qui est recensée. Mais ça veut aussi dire qu'on a des individus qui sont en cours d'émancipation. Donc ça peut être aussi, malgré la mauvaise nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle à l'échelle de la population.
On a parlé des traces qu'il laissait tout à l'heure. Quel signe pour l'auditeur qui nous écoute si à un moment il se programme une balade au bord d'un cours d'eau? Quel signe peut être la certitude de la présence d'un castor?
Alors moi j'encourage les gens, effectivement, on a la chance aujourd'hui en Mayenne d'avoir le halage qui longe la rivière la Mayenne. Et on a aussi une espèce, le castor, qui recolonise son territoire par cet axe de la rivière la Mayenne. Donc à partir du halage, avec une bonne paire de jumelles, vous pouvez toujours regarder sur les berges. Le castor, il a cette particularité, quand il va couper un arbre, de le couper comme on appelle en crayon. Et pour le coup, il laisse des traces qui sont visibles avec des copeaux au pied de cet arbre. Et puis l'arbre est vraiment taillé tel un crayon. Donc c'est des traces qui sont visibles d'un côté ou de l'autre du halage. C'est le principal indice qu'il va laisser, puisqu'il y a d'autres indices qui vont être distinctifs du castor, mais qui sont plus difficiles à percevoir. Il va laisser des espèces de petites crottes, ça ressemble à des boules un peu plus petites que les boules de Noël, mais qui sont toutes fibreuses, pleines de restes de copeaux et de brindilles. Mais elles sont vraiment très fragiles, donc dès que la Mayenne elle monte un petit peu, elles sont emportées par le courant.
On en a aussi dit quelques mots, mais il y a donc des bénéfices concrets qu'apporte le castor aux écosystèmes et à la biodiversité aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il vient alimenter un certain nombre de zones humides. En tout cas, il participe à la restauration des zones humides, puisque quand il crée son barrage, il va favoriser un débordement du cours d'eau dans la partie amont. Et ce débordement va inonder les prairies inondables. Donc pour le coup, il va favoriser la mise en place d'une certaine végétation et puis le développement d'une certaine biodiversité autour de cette végétation. Donc par ces édifices, finalement, il modifie les paysages et il va dans le sens qu'on essaye de reconquérir aujourd'hui, de restauration de zones qu'on a perdues puisqu'on cherchait beaucoup à regagner sur les cours d'eau et à canaliser pas mal nos cours d'eau.
Est-ce qu'il existe des tensions encore entre l'activité humaine et la présence du castor aujourd'hui ?
Alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est vrai que le castor aujourd'hui il est complètement protégé. La mode de la fourrure est passée, donc c'est vrai que les atteintes directes sur le castor sont très très rares et en tout cas ne sont pas documentées sur le département de la Mayenne. En revanche, effectivement, il peut arriver qu'aux abords des cours d'eau, soit lorsque le castor favorise le débordement du cours d'eau, cela induit une inondation sur certaines parcelles agricoles. Et là, il peut y avoir un petit point de discussion entre l'activité agricole et puis la présence du castor. De la même manière qu'en fonction des cultures qui se trouvent en bord de cours d'eau, il peut arriver qu'à la place de couper un saule pour pouvoir alimenter son barrage, il vienne s'alimenter ou en tout cas il vienne consommer un petit peu dans les vergers. Et là aussi, ça peut être un petit point de conflit, mais encore une fois, il y a des solutions qui existent. On peut protéger les troncs. Le castor, il est vraiment pas très à l'aise sur le domaine terrestre. Donc pour le coup, le fait de protéger les premiers arbres qui sont directement en berge par du grillage ou même par de la toile de jute, il aime pas forcément trop ça. Ça suffit à le dissuader. Et pour le coup, la cohabitation est plus facile. En tout cas, il y a toujours des solutions et il y a l'Office français de la biodiversité qui travaille aussi sur le castor et sur les modèles de cohabitation qui peuvent exister et qui peuvent proposer des solutions, en tout cas, voilà, qui sont de bons interlocuteurs pour donner les éléments de réflexion.
On parlait au début de notre échange d'un rendez-vous que vous donnez donc aux Mayennais, aux Lavallois. Ça aura lieu le 21 novembre à Laval, à l'Avant-Seine, à partir de 18h30. On a donc parlé de la projection d'un documentaire, Le cas du castor, accompagné d'un temps d'échange avec Rémi Luglia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors effectivement, le cas du castor, c'est un documentaire qui va reprendre un petit peu tous les éléments qu'on a effleurés au cours de cet échange et qui ouvrira la discussion sur la cohabitation entre le retour du castor et les différentes activités humaines qu'il peut y avoir autour des cours d'eau. Et ce ciné est suivi d'une petite conférence qui va être animée alors par moi-même et puis Rémi Luglia, historien naturaliste, président de la SNPN, Société nationale de protection de la nature, et vice-président de FNE, France Nature Environnement. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Vivre en castor », paru aux éditions Kouaé, qui sera disponible en dédicace à l'issue des échanges.
Pour terminer, en quoi c'est important justement de prendre le temps aujourd'hui de se repencher sur ces espèces qu'on oublie un peu, auxquelles on ne pense pas au quotidien et pourtant qui vivent avec nous à nos côtés. Qu'est-ce qui compte pour vous, pour l'auditeur là qui nous écoute ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à partir avec ce rendez-vous que vous proposez ?
L'idée, c'est de pouvoir informer sur son retour, parce que du coup, il y a une confusion qui est fortement possible. On a une autre espèce qui fréquente les cours d'eau et qui a plutôt mauvaise réputation, qui s'appelle le ragondin. C'est une espèce qui est piégeable. Et pour le coup, il peut arriver que le castor vienne se laisser attraper dans les caches-pièges. Donc, dans un premier temps, c'est de pouvoir informer les personnes sur la présence du castor. Et puis, le fait de faire tomber aussi certaines idées reçues sur le fait que le castor puisse proliférer, que demain, ce sera une vraie catastrophe sur les berges ou sur les rives, la végétation des rives. Moi, je reste convaincue que c'est en parlant et en se posant les uns à côté des autres et en échangeant sur le fond du problème qu'on pourra vraiment permettre sereinement ce retour du castor sur le département de la Mayenne.
Comme vous l'avez dit, on a seulement effleuré là pendant ces quelques minutes cette thématique. On invite évidemment l'auditeur de l'autre radio à se rendre donc à ce rendez-vous du 21 novembre à 18h30 à l'avant-scène à Laval pour passer ce moment avec vous lors de la projection et aux côtés de Rémi Luglia. On peut donner peut-être aussi ce petit rendez-vous qui va nous être donné le 12 décembre. Ce sera les rencontres FauneMen.
C'est ça. On est gestionnaire d'une base de données qui permet à tout un chacun, bénévole, adhérent, mais pas que, tout le monde peut contribuer à sa manière et relayer les observations qu'il peut faire avec ses connaissances. Et l'idée au cours de ces rencontres, justement, c'est d'amener les gens à montrer que ce n'est pas qu'un monde de spécialistes et que toutes leurs contributions nous permettent justement de dégager des grandes tendances sur les espèces remarquables, effectivement, mais aussi sur toutes les espèces ordinaires qui passent généralement au travers des mailles du filet.
Merci beaucoup, Magali, d'avoir passé ce moment avec nous. À bientôt.
À bientôt, merci.